2. Chapitre 34. Chelsea, 1990. Ma mère était allemande et elle aimait fêter Noël. C'était sa spécialité. Dès le début du mois de décembre, la maison se parait de décorations faites maison, d'oranges confites, de tissus à carreaux rouges, de pommes de pin peintes. Des odeurs de pain d'épices et de vin chaud s'échappaient de la cuisine. Il n'y avait jamais de guirlandes de Noël brillantes, ni de boîtes de Quality Street. Même mon père appréciait cette période. Il avait un costume de Père Noël qu'il enfilait le soir du 24 quand nous étions petits. Tout en sachant très bien que c'était lui, j'étais étrangement incapable de le reconnaître. C'est sans doute le même type de processus psychologique qui opérait dans le cas de David Thompson. Quand il le rencontrait, les gens voyaient en lui un homme comme les autres, mais se persuadaient qu'il était la solution à tous leurs problèmes. Ce 24 décembre-là, mon père n'enfila pas son costume. Il décréta que nous étions trop grands pour ça, ce qui n'était pas faux, et qu'il ne se sentait pas assez en forme. Ma mère décora tout de même la maison. Nous nous assîmes tous autour d'un sapin plus petit que ceux des années précédentes et ouvrîmes nos cadeaux, moins nombreux que d'habitude, pendant que la radio diffusait des chants de Noël et que le feu crépitait dans l'âtre. Au bout d'une demi-heure, avant de passer à table, mon père nous annonça qu'il devait aller s'allonger car il souffrait d'une terrible migraine. 30 secondes plus tard, il était étendu au milieu du salon, victime d'un accident vasculaire cérébral. Bien entendu, à ce moment-là, nous ne savions pas ce qui lui arrivait. Nous pensions qu'il s'agissait d'une sorte d'attaque ou d'une crise cardiaque. On appela le docteur Broughton, le médecin de mon père, qui portait encore sa tenue de Noël. Un pull-over à col en V rouge et un nœud papillon orné de feuilles de houx. Je me souviens de sa mine défaite quand mon père lui avoua qu'il n'avait plus d'assurance maladie. Son comportement, auparavant obséquieux, changea radicalement. Il appela une ambulance pour qu'on l'emmène à l'hôpital public et quitta la maison sans dire au revoir. Mon père rentra 2 jours plus tard. On nous dit qu'il allait bien, qu'il aurait des difficultés cognitives pendant quelque temps et qu'il aurait du mal à se déplacer, mais que son cerveau allait se réparer tout seul et qu'il recouvrerait ses moyens en quelques semaines. Cependant, il ne s'était jamais tout à fait remis de son premier accident. Et cette fois, c'était encore pire. Il avait le regard vide. Il utilisait les mauvais mots quand il parvenait à les trouver. Il passait ses journées assis dans le fauteuil de sa chambre à grignoter des biscuits tout doucement. Parfois, quand on lui parlait, il se mettait à rire sans raison. Et quand on lui faisait une plaisanterie, il ne la comprenait pas. Il se déplaçait lentement. Il évitait l'escalier. Il ne sortait plus de la maison. Plus mon père s'affaiblissait, plus David Thompson s'approchait de son but. Quand j'eus 14 ans, en mai 1991, un règlement avait été édicté. Je ne parle pas d'interdits familiaux comme ne pas mettre ses pieds sur les meubles ou faire ses devoirs avant de regarder la télévision. Nous avions toujours eu ce type de principe à la maison. Désormais, nous vivions sous le coup de règles folles, despotiques, écrites au feutre noir sur une grande affiche scotchée à un mur de la cuisine. Je ne les oublierai jamais. Interdiction de se couper les cheveux sans l'accord de David ou de Birdie. Pas de télévision. Interdiction d'inviter des gens sans l'accord de David ou de Birdie. Pas d'orgueil. Pas de jalousie. Interdiction de sortir sans la permission de David ou de Birdie. Pas de viande. Pas de produits issus de l'exploitation animale. Pas de cuir. Pas de daim. Pas de laine. Pas de plumes. Pas de plastique. Pas plus de 4 objets jetés par jour et par personne, déchets alimentaires compris. Pas de vêtements teints. Pas de médicaments. Pas de produits chimiques. Une douche par jour et par personne. Un shampoing par semaine et par personne. 2 heures par jour avec David dans la salle d'exercice par personne. 2 heures par jour avec Birdie dans la salle de musique pour les enfants. Toute nourriture doit être cuisinée à la maison et doit être bio. Pas de chauffage. On ne crie pas. On ne jure pas. On ne court pas. Cette liste, assez succincte au début, avait été complétée au fur et à mesure que l'emprise de David sur notre maisonnée augmentait. À cette époque, Sally nous rendait visite 1 ou 2 fois par semaine et emmenait Finn et Clemency prendre le goûter à l'extérieur. Elle dormait sur le canapé d'amis à Brixton et essayait désespérément de trouver un appartement où elle pourrait vivre avec ses enfants. Quand il passait du temps avec sa mère, Finn revenait toujours particulièrement maussade. Il s'enfermait dans sa chambre et sautait plusieurs repas. À bien y penser, beaucoup des règles avaient été édictées à cause de Finn. David ne supportait pas ses sautes d'humeur. Il ne tolérait pas qu'on ne finisse pas son assiette, qu'il ne puisse pas ouvrir une porte quand bon lui semblait, ou que qui que ce soit ait une vision du monde différente de la sienne. Il détestait les adolescents. Deux nouvelles règles furent ajoutées. Pas de porte fermée à clé. Les résidents doivent assister à tous les repas. Un matin, peu de temps après l'une des visites de Sally, alors que Finn n'avait pas respecté la règle du « pas de porte fermée à clé », je fus réveillé par un bruit provenant du couloir. David, les mâchoires crispées, équipé d'un tournevis qu'il manœuvrait de ses mains puissantes, retirait la serrure de la chambre de Finn. Son fils, assis sur un matelas, les bras croisés, le regardait avec un air de défi. Quand sonna l'heure du dîner, Finn n'avait toujours pas bougé ni parlé. David le traîna dans la cuisine et le jeta sur une chaise. Il poussa la chaise jusqu'à la table et servit à Finn une grande assiette de curry de courge avec du riz. Finn ne desserra pas les bras. David se leva, remplit une cuillère de nourriture et la colla aux lèvres de son fils, qui n'ouvrit pas la bouche. J'entendais le métal de la cuillère se heurter aux dents de Finn. C'était une scène fort choquante. Finn avait 14 ans et demi, mais faisait plus que son âge. Il était grand, fort. La situation aurait pu dégénérer très facilement, pourtant il ne bougeait pas. Ses yeux semblaient vouloir transpercer le mur en face de lui, la colère et la détermination se lisaient sur son visage. David finit par abandonner l'idée de donner à manger à son fils à la cuillère qu'il jeta à travers la pièce. Le curry laissa sur le mur une sinistre traînée jaune et la cuillère cogna le sol dans un horrible fracas métallique.
« Dans ta chambre !» aboya David. « Immédiatement !»
Une veine palpitait à sa tempe. Son cou était rouge et tendu. Je n'avais encore jamais vu un visage humain aussi plein de rage.
« Avec plaisir !» cracha Finn.
Et là, presque au ralenti, la main de David se leva et alla s'écraser sur l'arrière du crâne de son fils qui passait devant lui. Finn se retourna, ses yeux rencontrèrent ceux de son père, et j'y lus de la haine pure. Finn sortit de la cuisine. Nous entendîmes le bruit de ses pas qui montaient l'escalier sans s'arrêter. Quelqu'un se racla la gorge. Birdie et David échangèrent un regard. Les yeux plissés et désapprobateurs de Birdie disaient « Tu perds le contrôle, fais quelque chose ». Et ceux de David, sombres et furieux, lui répondaient « C'est prévu ». Dès que le repas fut terminé, je grimpai dans la chambre de Finn. Il était assis sur son matelas, les genoux ramenés contre son menton. Il me dévisagea.
« Quoi ?
Ça va ?
À ton avis ?»
Je m'avançai un peu dans sa chambre. Je m'attendais à ce qu'il me demande de partir, mais il toléra ma présence.
« Ça t'a fait mal quand il t'a tapé ?»
Mes parents étaient des gens étranges, mais ils ne m'avaient jamais frappé. Je ne pouvais pas me représenter ce que ça faisait.
« Pas vraiment. »
Je fis un pas de plus. Soudain, Finn leva les yeux vers moi, et le miracle se reproduisit. Il me voyait enfin, vraiment.
« Je ne peux pas rester ici, » m'annonça-t-il en secouant la tête. « Il faut que je me tire. »
J'eus l'impression que mon cœur s'arrêtait de battre. Sans Finn, je ne voyais pas comment j'aurais pu continuer à exister.
« Pour aller où ?»«
Je ne sais pas. Chez ma mère. »
« Mais... »
J'allais lui rappeler que sa mère dormait sur un canapé à Brixton. Il m'en empêcha.
« J'en sais rien, ok ? Mais il faut que je parte. J'en peux plus. »
« Quand ?»«
Maintenant. »
Il me regardait sous ses cils démesurément longs. J'essayais de déchiffrer l'expression de ce visage. Peut-être était-ce une proposition ?
« Est-ce que tu veux... Enfin, est-ce que je devrais venir avec toi ?»«
Non, t'es fou !»
Je me sentis rapetissé. « Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que je vais dire quand les adultes demanderont où tu es ?»«
Rien, » siffla-t-il.
« Rien du tout, pas un mot. »
J'acquiesçais, les yeux écarquillés. Je le regardais jeter des affaires dans un sac en toile.
des pantalons et des chaussettes, un t-shirt, un livre, sa brosse à dents. Il se retourna et vit que je l'observais. « Va-t'en, s'il te plaît. » Je sortis de sa chambre et marchai lentement jusqu'à l'escalier. Je descendis 3 marches, poussai la porte derrière moi et m'assis. Je vis Finn se faufiler par la trappe dans le plafond du grenier avec son baluchon sur le dos. Je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où il pourrait bien aller. Pendant un moment, je tentais de me convaincre qu'il allait vivre sur le toit. Mais nous étions en mars, il faisait trop froid, c'était impossible. Puis j'entendis des bruits étranges venant de l'extérieur et je me précipitai dans la chambre de Finn. Je collai mon visage à la fenêtre qui donnait sur le jardin. Soudain, je le vis, traversant la pelouse en courant vers l'ombre épaisse des arbres. Il avait disparu. Je me retournai pour contempler sa chambre vide. Je pris son oreiller et y plongeai mon visage pour m'enivrer de son odeur.